Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 29 janvier 1998 à Saint-Jadard.
2 j'anticipe 200 grammes. Et tous les deux veulent l'être. Mais Aristote dit qu'il est plus proche de Socrate, plus fidèle à Socrate que Platon. Oui. C'est intéressant de voir que c'est vraiment le problème de la finalité qui a non seulement distingué les deux philosophies, Platon et Aristote, mais qui les a séparés, ayant d'une certaine manière la même source. Là, il y a un problème historique de l'histoire de la pensée qui, je crois, est très important et qui pose avec et personnellement, je vois bien, j'ai exprès voulu regarder ce que je pouvais dire quand j'ai écrit le livre La Métaphysique. Donc, c'est intéressant de voir ce qui a été dit il y a quelques années. Montrer que cette recherche est une recherche constante. Et je crois que pour l'homme, c'est une recherche constante. C'est pour ça qu'Aristote dit que la philosophie première a quelque chose de divin. Et il y a quelque chose qui nous dépasse. Or, c'est pas agréable de regarder qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, en tant que chrétien, on prend une attitude de fidéiste. Il est évident qu'un chrétien accepte la causalité finale au niveau de toute sa vie, au niveau au-delà de sa vie humaine, au niveau de son être. Parce que l'être qui est notre être, n'est pas de nous, n'est pas de nos parents. Si c'était de nos parents, comme pour la grenouille, la causalité efficiente suffirait. Pour la grenouille, rechercher sa source, c'est ses parents. Si la grenouille faisait de la métaphysique, si notre âme n'est pas créée par Dieu, je pose la question en tant que chrétien, vous voyez. C'est très important pour nous de toujours bien distinguer notre recherche au niveau humain et au niveau chrétien. Et on a le devoir de le faire. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'est plus chrétien. Il y a un brassage aujourd'hui. Il n'y a plus les limites qui étaient si nettes dans l'Ancien Testament entre le monde des croyants, des descendants d'Abraham, et le monde des païens. Jésus est mort pour tous les hommes. Et par le fait même, il n'y a plus cette distinction de l'Ancien Testament du peuple béni et puis des païens. Le peuple béni par Dieu, le peuple juif et l'égoïme. On ne peut plus faire ça. Et on ne voit pas suffisamment les conséquences énormes que ça fait au point de vue de la culture humaine. On est des victorieux dans la pauvreté. C'est vrai. Le monde païen, très souvent, le monde païen au point de vue spirituel, très souvent, apparaît comme victorieux du côté de l'efficacité. Le monde d'aujourd'hui, le progrès de notre monde d'aujourd'hui, se fait en dehors du Christ. Et les philosophies qui sont nées depuis 200 ans, 300 ou 400, depuis le 14e siècle, se font en dehors du Christ. Et nous semblons, le point de vue de l'apparaître, nous semblons battus par les païens. On a tous cette expérience-là. Et je crois que c'est très important de la mettre en face. C'est en ce sens-là, vous voyez, qu'il y a pour nous un choix. Est-ce que ça me donne une force dans l'amour et intérieur? Oui, je crois que pour nous, c'est nécessaire de faire que le choix de Jésus pour lui et pour nous est le choix capital de la vie chrétienne qui aujourd'hui se présente avec une acuité plus profonde qu'au début de l'évangile. Parce que l'humanité a mûri pendant ces 2000 ans. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas se préparer au jubilé de l'an 2000 sans une vision eschatologique du retour du Christ. Mais si le Christ revient, selon notre foi et notre espérance, il ne revient pas pour être et pour proclamer « Je suis le roi ». Visible, je suis en moi-même par ma résurrection victorieux de toutes les souffrances, de toutes les défaites de la croix. Je suis victorieux pour le Père. Et c'est en tant que je vous ai sauvé pour vous donner une vie divine que je reviens. Vous amener au Père. Mais c'est le problème de la finalité au niveau chrétien. Et au fond, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, notre vie chrétienne est tellement émoussée par la puissance de la culture humaine et païenne, par la puissance de l'efficacité humaine, que toutes les découvertes scientifiques, avec leur application technique, est si forte que nous risquons d'adorer les idoles modernes pour avoir la victoire humaine. En disant, quand même, être chrétien, ce n'est pas tuer l'homme, ce n'est pas tuer l'humain, ce n'est pas supprimer l'efficacité, c'est très vrai, mais c'est de mettre une relativité très grande à l'efficacité, à l'épanouissement humain. Et qu'aujourd'hui, la communauté chrétienne visible, la communauté chrétienne dans laquelle nous sommes, doit se reposer le problème. Paul VI l'avait annoncé. Il avait annoncé pour les infirmières italienne. Ça m'avait beaucoup frappé. Et c'est normal que ce soit là où le problème se pose avec une extraordinaire acuité. C'est au niveau de la vie et de la vie humaine. Donc, c'est le problème de l'âme. On oublie l'origine de l'âme et la finalité de l'âme. Et qu'au fond, voyage. Une Française, pas très chrétienne, mais ouverte à l'aspect religieux et très spécialiste de la culture de l'Inde actuelle. Et ce professeur s'était posé la question et m'avait posé la question, c'est pour ça que ça me revient maintenant. Comme le nôtre, qui est un climat païen. Dans un climat qui est uniquement qui se veut uniquement rationnel, qui en réalité est anti-religieux, puisque notre culture d'aujourd'hui est une culture ne cherche plus la finalité de l'homme, qui ne cherche que le succès de l'homme, qui ne cherche que sa puissance. Peut-on dans ce climat faire une métaphysique? Et faire une métaphysique qui soit vraiment ce qui nous empêche d'oublier la finalité. Là, sa première culture était luthérienne et calviniste. Ah, vous savez que c'est ça le point le plus délicat. Peut-on intelligence qui cherche la vérité. On peut très bien ne pas la découvrir tout de suite, parce que ça met du temps. On peut très bien ne pas la découvrir tout de suite, ça met du temps. Mais on sait que notre intelligence est faite pour ça. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez, que ce problème de la découverte de la finalité au niveau de ce qui est en tant qu'il est le problème dominant au point de vue humain, au point de vue philosophique. Toute la philosophie prend sa signification là. Métaphysique, une vraie philosophie de ce qui est en danger. Mais donc ce que je vous dis là, c'est la grande découverte d'Aristote, la grande découverte de Thomas d'Aquin, et c'est l'appel impératif au plan chrétien de celui qui est à la tête et qui respire. Qui remplace la métaphysique. cause finale, la découverte de la cause propre de ce qui est en tant que vin. Mais c'est pas étonnant que c'est difficile. Hein. Mais comprenez que c'est cela qui justifie toute notre philosophie réaliste et qui nous permet de découvrir l'existence de Dieu. Alors, à ce moment-là, il est normal. C'est ce que Heidegger dit avec une petite image très simple, mais assez jolie. Et quand on coule dans un lac, dans la mer, et qu'on touche le fond, on donne un coup de talon pour revenir à la surface. Notre intelligence humaine aujourd'hui, avec la philosophie hegelienne, avec la philosophie de Husserl. Husserl avait fait une thèse en mathématiques, c'est un amateur, et fait une méta-mathématique. Alors c'est normal. La dernière fois que c'était découvre qu'il y a au-delà de l'amour spirituel, il y a la découverte du principe de finalité, la découverte de l'ami. L'amour spirituel que j'expérimente au plus intime de moi. Plus intime de moi, quand je dis « tu es mon ami », je te choisis comme ami. Si je suis lucide à l'égard de cet amour, je considère que l'amour que j'ai pour mon ami est un amour qui me permet de me dépasser. C'est un amour extatique qui atteint la personne de l'autre dans ce qu'elle a de tout à fait propre. Je découvre non seulement que l'homme est capable de m'attirer, capable de me séduire, mais qu'il y a plus. Je découvre en lui quelque chose d'absolu. Et je découvre en lui quelque chose de l'absolu quand je le choisis. Parce que je ne peux le choisir parfaitement que si je sais que l'amour que j'ai pour lui rencontre l'amour qu'il a pour moi. Et dans cette rencontre de ces deux amours, je découvre que mon ami, c'est celui qui est capable finaliser ma vie humaine, c'est-à-dire de transformer toute ma vie humaine dans ses diverses activités. Et que c'est dans la mesure même où je vois cette transformation que je découvre qu'il y a au-delà de l'amour cette saisie de l'intelligence faite par l'intelligence de l'ami existant comme ami et m'attirant et transformant par cette attraction et par cette saisie. Dans cette attraction, par cette saisie, transformant tout l'ordre de mes activités. Et c'est grâce à cette transformation qui est l'effet direct de ce choix, donc de cet amour fin implique l'existence actuelle de mon ami. Et par l'aspect négatif, la mort de mon ami, tout prend une acuité très forte, ou la séparation de mon ami. Seul le bien fin, c'est-à-dire le bien absolu.